On va aller retrouver la docteur Mélissa Généreux. Mais surveillez demain la ville de Sherbrooke, une annonce convaincue de ça pour un événement qui va venir assez vite. La santé psychologique, ça fait déjà plusieurs études qu'on mène, qu'on entend également à différents degrés. Certaines études se sont concentrées chez les enfants, d'autres chez les aînés. Et il y a également cette enquête de l'Université de Sherbrooke sur les impacts psychosociaux de la pandémie. Et on avait déjà eu quelques volets de cette enquête en cours depuis le printemps. En voici un autre où on vient nous dire notamment que les 18-24 ans forment le groupe le plus susceptible de présenter des symptômes significatifs d'anxiété ou de dépression majeure. Elle est professeure chercheuse à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'UdeS et médecin conseil à la Direction de la santé publique de l'Estrie, Dr. Mélissa Généreux. Bonjour.
Bonjour.
Les 18-20... Premièrement, définition là, concernant l'anxiété. Permettez-moi, docteur, s'il vous plaît, de nous ramener une définition de l'anxiété parce que j'ai l'impression depuis plusieurs mois qu'on met dans la même définition ce qui peut être du stress, du trac. Et je trouve qu'on en met beaucoup dans la définition de l'anxiété, de ce qu'on peut vivre comme humain, alors que ça fait partie de la vie d'avoir du stress aussi.
Tout à fait. Puis il faut vraiment faire la différence entre les deux. D'un côté, il y a un stress ou même des fois un sentiment de détresse qui peut être passager. Mais du fond, mesure dans notre étude, c'est beaucoup plus précis que ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on y va avec 7 questions qui correspondent grosso modo à des critères diagnostiques qui seraient abordés avec un médecin qui voudrait faire le diagnostic d'anxiété généralisée chez une personne. Donc, on va regarder, par exemple, la fréquence au cours des deux dernières semaines à laquelle la personne a ressenti un sentiment de nervosité très, très important, des problèmes de sommeil, le fait de s'en faire pour à peu près toutes les sphères de sa vie, que ce soit sa santé, la famille, l'argent. Donc, c'est vraiment là une anxiété qui vient envahir le quotidien, même qui vient empêcher le bon fonctionnement de la personne dans sa vie de tous les jours. Donc, ça, c'est vraiment la distinction qu'on veut faire entre le stress, la détresse passagère, et d'autre part, l'anxiété qui, elle, peut être, si on veut, pathologique ou vraiment problématique pour le bon fonctionnement de la personne.
Comment on réussit à identifier, entre autres, la portion de jeunes de 18 à 24 ans comme étant celui qui a peut-être le plus de conséquences actuellement?
Mais en fait, c'est assez simple. Notre enquête est faite chez 8500 adultes représentatifs de toute la population québécoise. Puis évidemment, dans ces adultes-là, on en a des 18-24 ans, puis ainsi de suite, à tous les groupes d'âge. Et on pose exactement les mêmes questions. Donc, comme je disais, les 7 questions sur l'anxiété généralisée. On a aussi 9 questions sur la dépression majeure. Est-ce que j'ai perdu intérêt dans à peu près tout? Est-ce que je suis triste presque tous les jours? Est-ce que j'ai perdu l'appétit? Est-ce que j'ai des idées suicidaires, etc.? Et c'est vraiment en calculant des scores qu'on est capable de déterminer qui a probablement, évidemment, c'est auto-rapporté et non un diagnostic, mais qui a probablement soit un trouble d'anxiété ou soit une dépression majeure. Et c'est en calculant ce pourcentage-là qu'on se rend compte de l'écart tellement important entre les 18-24 ans et les personnes plus âgées. On parle entre les 18-24 ans et les 65 ans et plus d'un facteur 5, en ce sens que c'est 49 % de nos 18-24 ans qui présentent ces symptômes-là, alors qu'on parle de à peu près 10 % chez nos personnes aînées.
On dit un adulte sur 4 qui rapporte des symptômes compatibles à un trouble d'anxiété généralisé ou dépression majeure, surtout chez les hommes et les jeunes, c'est 25 %. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec des études hors COVID?
Écoute, c'est vraiment une limite. Moi, je me rends compte, surtout à l'échelle du Québec, j'ai eu beau chercher des enquêtes populationnelles qui auraient justement questionné la population québécoise quand ça allait en guillemets mieux, à savoir est-ce que la population présentait des symptômes d'anxiété, de dépression, pour me rendre compte qu'on n'a pas ce genre de statistiques-là qui étaient existantes à l'échelle du Québec. Par contre, j'ai des statistiques à l'échelle du Canada, donc on peut quand même se fier grosso modo là-dessus. Et si je vais pour du côté de la dépression majeure, là, plus particulièrement, chez la population globale, là, c'était 7 % de nos adultes au Canada avant la pandémie qui répondaient à ces critères-là de dépression majeure avec exactement les mêmes questions posées que dans notre étude. Et là, on parle de 7 % à, pour la dépression spécifiquement, je ne me rappelle plus, là, mais un chiffre bien plus élevé là, dans les 20-30 %. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'échelle autant des jeunes adultes que de la population québécoise dans l'enfance.
Il y a l'aspect des travailleurs essentiels également. Pour ceux aussi, le télétravail, parce qu'on nous le rapporte, le télétravail, pour certains, au début, c'était tout nouveau, tout beau, mais ça a évolué, cet aspect-là.
Oui, bien encore une fois, on ne peut pas généraliser. Je suis certaine que certains télétravailleurs vont se dire en parfaite santé, puis qu'au contraire, ils voient un avantage à faire tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en moyenne, là, sur l'ensemble des télétravailleurs questionnés, on a quand même un pourcentage assez élevé, là, je pense 28 % d'entre eux qui affichaient soit des symptômes compatibles avec l'anxiété généralisée ou encore de la dépression majeure. Donc là, 28 % ça commence à être beaucoup, puis on est en mesure de dire là, que c'est une différence qui est statistiquement significative avec les autres travailleurs. Donc il y a quelque chose qui se passe du côté des télétravailleurs, ça c'est certain.
Il y a un aspect important quand même des données, puis ça m'intéresse énormément, puis je vous relancerai la balle, mais on nous dit, tant la pandémie que l'infodémie influence la santé psychologique, l'infodémie étant la surabondance d'informations, mettons, de véracité très variable.
Mm-hmm. Tout à fait. En fait, c'est le problème, puis c'était anticipable. C'est bien connu que lors de crise, on fait face à une surexposition d'informations. Mais lorsqu'on parle d'une crise sanitaire qui implique un virus qui se transmet de personne à personne, ah ben là, on a une explosion d'informations, littéralement. Donc, c'est pas moi qui le dis, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le met noir sur blanc un peu partout. Cite l'infodémie comme étant une grande priorité d'action tout autant que l'est la pandémie parce que les deux vont de pair. Et puis, ben, quand on y pense bien, dans la vie de tous les jours, c'est peut-être pas nécessairement juste le virus qui vient nous impacter. C'est beaucoup les mesures de contrôle qu'on met en place qui viennent modifier beaucoup notre quotidien. Mm-hmm. Mais aussi toute cette information-là et mes informations, bien sûr, qui viennent à nos oreilles, qui viennent dicter comment on va réagir sur le plan psychologique, comment on va se sentir, comment on va réussir à contrôler son anxiété.
Mais il y a aussi l'incohérence des mesures annoncées, parce que ça, vous le notez même, je cite, les consignes sont perçues comme étant exagérées et peu claires par plus du quart de la population. Alors, c'est à peu près normal que les gens réagissent aussi en regard de ça, là.
Oui, bien c'est ça. Écoute, je me dis, dans un contexte où les consignes sont relativement stables en santé publique, là, avant la pandémie, on avait des consignes ou des messages de prévention à passer qui étaient relativement stables. Déjà là, il y a des gens qui nous disaient, ben moi, je n'ai pas compris ou moi, je décide de ne pas y adhérer pour toutes sortes de raisons parce que c'est pas tout le monde qui reçoit l'information de la même façon. Mais là, en plus, on est dans un contexte d'évolution à vitesse grand V, là, d'une journée à l'autre. Nos propres consignes évoluent parce que la situation évolue. Donc, on change le message. D'un point de presse à l'autre, des fois, on est obligé de changer la consigne. Ensuite, il faut mettre le site web à jour. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont restés avec l'ancienne consigne qui la partagent sur Facebook. Puis, rendu là, c'est tout à fait normal. Puis, en passant, là, notre étude, on le fait au Québec, mais on le fait aussi à l'international, dans 8 pays quand même. Et je vous garantis que ce phénomène-là d'infodémie puis d'impact sur la santé psychologique, elle est observée à l'échelle de la planète.
Oui, mais je reviens sur l'idée, entre autres, de l'infodémie. Est-ce que de répéter des études sur l'anxiété puis de dire que le monde a des problèmes d'anxiété, ça ne vient pas influer aussi les gens?
Ben, super bon point, c'est tellement pas l'objectif derrière. Moi, je vous dirais surtout que le fait de conduire ces études-là, premièrement, ça réussit à mettre à l'agenda le fait qu'on ne doit pas lutter que contre le virus, mais aussi contre les impacts psychosociaux. Et ça, ça a un impact incroyablement important. C'est parce que moi, je le vois tranquillement, puis c'est pas pour rien que lors de la vague 1, on est allé avec des mesures quand même assez drastiques qui, on va se le dire, avait d'abord et avant tout avait pour mission de minimiser la transmission du virus. On est allé là avec on a sorti les gros sabots. Puis là, on s'est rendu compte que la situation perdure, que les impacts réseaux sociaux se multiplient et qu'on ne peut pas simplement prendre des mesures qui vont juste lutter contre le virus. On doit prendre des mesures qui sont peut-être un petit peu plus équilibrées et qui viennent aussi prendre en considération l'impact que ça va générer au niveau de la santé mentale, qui est tout aussi importante que le virus en lui-même. Donc ça, je pense que plus on en parle, plus on fait prendre conscience, d'une part, mais la population aussi, je pense qu'elle est invitée à reconnaître ses symptômes et à aller chercher de l'aide.
Oui, sauf que l'incohérence pour certaines décisions se poursuit. C'est peut-être là aussi que ça continue à affecter lorsqu'on prive les jeunesses de sport, lorsqu'on prive les aînés de certaines visites, certaines activités. Il y a là aussi, on continue d'impacter ces gens-là, là. On ne fera pas à croire que ce qu'on prend comme décision actuellement, ça continue pas d'impacter les personnes peut-être les plus vulnérables ou à risque.
Définitivement. Puis moi, je pense que chez les jeunes en particulier, là, on s'entend que je parle des 18 à 24 ans parce que notre étude commençait à 18 ans et plus, mais probablement qu'on avait questionné les 12-17, la situation serait pas plus rose. Là,
c'est
on
clair.
S'entend. Mais bref, moi, je me dis où est la place qu'on donne à ces jeunes-là? Est-ce qu'on a un endroit pour les entendre nos recommandations, comprendre que lorsqu'on s'enligne pour prendre certaines décisions, ça engendre tel impact au niveau psychologique? Ça, j'ai l'impression que ce dialogue-là gagnerait à être heureux aussi.
Oui, puis pas juste les entendre, les faire bouger. Hein? Les enfants, vous en avez des enfants, docteur Généreux, il faut que ça bouge, les petits mousses-là, hein?
Ah ben, moi je trouve qu'ils bougent quand même pas mal, mais c'est peut-être les miens qui sont... Non, mais je... À 5, disons, ça va vite que ça bouge beaucoup, mais...
Oui, ils ont la chance, ils ont la chance d'avoir des frères et sœurs, mais il y en a plusieurs qui sont tout seuls, là.
Exactement, c'est ce que j'allais dire, puis ils ont la chance d'avoir aussi un espace, c'est pas tout le monde qui vit dans un appartement plus petit, un terrain plus limité, lorsqu'on est enfant unique, il y a plein de raisons qui font en sorte que nos occasions socialisées et bouger sont vraiment réduites, donc oui, il faut définitivement être conscient de ça, puis j'espère là, que dans l'évolution de la situation, non seulement le virus va nous donner un petit break, puis ça, ben, j'invite tout le monde à Noël à être très attentif à ça, parce que le gouvernement peut faire sa part, mais il faut aussi, comme citoyen, fasse notre part pour pas avoir un boom de cas qui n'aidera pas notre cause, mais j'espère qu'en janvier, on aura des façons là, de reviser un peu nos mesures de contrôle de manière à réduire un peu les impacts que ça a sur la santé psychologique.
Merci, docteur.
Ça me fait plaisir.
Merci, docteur Mélissa Généreux, professeure chercheuse à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'UDS, médecin conseil, à la Direction de la santé publique de l'Estrie.